RMC Running,
Benoît Boutron.
Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, le podcast où tous les passionnés de la course à pied, que tu t'entraînes comme un pro ou seulement pour le plaisir, tu vas trouver tout ce que tu cherches ici, des portraits de coureurs, des conseils d'entraînement et des bons plans de sort pour te lancer de nouveaux défis, toujours avec notre marathonien, membre de l'équipe de France, notre coach à tous, Johan Durand. Salut Yo.
Salut à tous, salut Benoît, ça va?
Comment ça va mon champion?
Eh ben écoute, moi je suis en train de faire des globules rouges en altitude, tu vois, je suis pas en plateau avec toi aujourd'hui. Eh oui. Et je fais des globules rouges à 2000 mètres d'altitude et je suis bien.
T'es où? Font-Romeu?
Tranquille, à Font-Romeu dans les Pyrénées, beau bon. Soleil,
beau soleil,
belle température pour un mois d'avril, voilà. Ça va, je me plains pas.
4 degrés, tout
la
va bien.
Montagne.
Voilà, super.
Ouais, voilà.
Bon, vous répète...
La montagne, c'est beau pour se ressourcer.
Eh oui, ça vous gagne, effectivement, la montagne.
C'est ça.
Si vous êtes fan de RMC Running, vous nous rejoignez sur Twitter, Instagram ou encore sur le club RMC Running sur Strava. Un événement cette semaine, Yo, on reçoit un aventurier, une légende, Claude Dartois, alias Claude de Koh-Lanta. C'est le GOAT du célèbre jeu de TF1. Salut Claude.
Salut Benoît, salut Johan.
Et on est ravis de t'accueillir Claude, comment ça va?
Ça va très bien, merci.
Eh ouais.
Invité à venir chez vous.
Écoute, on t'accueille parce que tu rentres du Maroc. Eh oui, tu viens de boucler le mythique Marathon des Sables. Tu vas nous raconter cette expérience, comment tu l'as vécu. Si t'as souffert un peu, toi, l'aventurier le plus célèbre de France, tu vas pouvoir nous raconter tout ça. Et d'ailleurs,
qu'est-ce
la séance... Ah ouais, c'est une bonne question ça, on te la posera. La séance sera adaptée à l'épreuve que tu viens de traverser. Le sable, pourquoi et comment courir dans le sable? Quels sont les intérêts? Que faut-il éviter? Johan vous a préparé pas mal de conseils. Et puis cette semaine, le bon plan dossard est également taillé pour toi Claude. On va faire gagner des dossards pour la Spartan Race. Donc on va se régaler. Alors enfilez vos baskets, attachez vos lacets, c'est parti pour RMC Running.
Marathon des Sables 2022, en présence d'un athlète un petit peu atypique, parce qu'il est très très connu médiatiquement, pas forcément athlétiquement, mais pourtant la survie il connaît. On est en présence de Claude Dartois, dont le nom est attaché à Koh-Lanta.
Ah, Claude, le grand champion de Koh-Lanta.
La victoire pour Claude!
C'est tout simplement une course à pied extrême disputée ici, au beau milieu du Sahara Sud marocain. Au programme cette édition, 236 km répartis en 6 étapes.
Ah !
Une parenthèse ensablée pour des coureurs anonymes, mais aussi un vrai défi sportif pour les élites.
Malin, instinctif, courageux, Claude se faufile une nouvelle fois jusqu'au bout.
Cette année, non, la préparation était un peu tronquée, je me suis blessé en début d'année. L'année dernière, j'avais eu un arrachement sur un orteil. Et là, j'ai eu une fracture de fatigue au mois de février, début février, sur cet orteil-là.
Dans ces paysages grandioses, les concurrents sont écrasés par la chaleur. Près de 40 degrés ressentis.
La chaleur, c'est vrai que c'est pas une chose commune.
La principale difficulté du marathon des sables, ben comme son nom l'exprime si bien, ben c'est le sable.
Ah oui, sans doute, effectivement, la principale difficulté du marathon des sables, c'est le sable. Claude Dartois qui est donc avec nous. Claude, évidemment, c'est 4 participations à Koh-Lanta, 4 finales, record du nombre de victoires individuelles, 22. Quelqu'un que tu connais, j'imagine, Johan, quand même.
Ouais, je regardais pas Koh-Lanta jusqu'au confinement. Et le confinement m'a fait, on s'ennuyait, tu sais. Il y avait plus de foot, il y avait plus rien. Je me suis mis à regarder ça. Et, putain, je suis devenu accro. Et c'était la saison où il y avait Claude et tout. Donc, je suis très, très content d'être aujourd'hui avec lui.
C'est gentil, merci.
Ouais. Claude, un mec comme toi, le confinement, ça a dû te rendre dingue, non?
Ouais, non, après, j'avoue, mais je m'octroyais quand même des sorties, une heure pour moi, une heure pour les enfants, et après
voilà,
les courses.
Il avait 4 attestations.
Ouais, c'est sûr. Alors, Claude, on démarre toujours nos épisodes par la même question. Tout simplement, pourquoi tu cours?
Ouais, pourquoi je cours? Parce que c'est le moyen le plus simple de se déplacer. J'ai toujours couru depuis tout petit. C'était pour moi une manière de me déplacer rapidement et efficacement. Donc, pour le plaisir.
Ouais, t'es fan de course, ça te fait du bien et puis t'en as besoin dans ta vie, quoi.
Ouais, après, je suis pas un coureur comme les grands champions qui vont courir, qui ont besoin de courir tous les jours, tout le temps. Mais c'est un plaisir que je m'accorde régulièrement. Mais il me faut un objectif aussi pour me forcer un peu à sortir.
C'est pour ça que t'as besoin de te lancer de nombreux défis et plus durs les uns que les autres et comme ça, c'est comme ça que t'avances.
Ouais, c'est l'objectif qui fait que la préparation, il faut qu'elle soit bonne. Donc, si tu veux une bonne préparation pour réussir ton objectif, il faut être assidu et dans ces cas-là, sortir.
Exactement, il faut écouter les conseils de Maître Durand, évidemment.
Voilà.
Allez, on attaque le CV de coureur de Claude.
RMC,
le CV de coureur.
T'as quel âge Claude aujourd'hui?
J'ai 42.
42 ans, tu cours depuis quand alors?
Alors officiellement je cours là depuis que j'ai repris après Koh-Lanta 2010 où j'ai commencé à refaire la course à pied, les 10 km, des semis, des marathons.
Donc 12 ans,
mais petit je faisais des crosses déjà.
D'accord.
Et j'avais déjà couru quelques petites courses, mais c'est vrai que c'était pas pour moi, c'était plus un loisir qu'un sport par entière.
Tu cours combien de fois par semaine en moyenne?
Sans objectif, une fois. Avec
ah ouais, vraiment?
Ouais.
Tu peux couper complètement.
Ouais, quoi, je coupe complètement. Je fais autre chose. Je fais de l'escalade, je fais du vélo, je fais.
Tu fais d'autres activités.
Ouais, la natation et tout. Mais réellement, si j'ai un objectif, trois fois minimum, c'est ma sortie, c'est trois. Après, je suis pas un grand mangeur de kilomètres parce que je pense que mon corps n'a pas besoin et je suis plus sujet à me blesser si je commence à faire des grosses sorties.
Ouais.
Donc moi, je mise plus sur la fraîcheur et l'envie. Et c'est toujours passé, hein, pourvu que ça dure.
Tu t'entraînes quand en général? Le matin, le soir, peu importe?
Alors je préfère m'entraîner le matin. J'ai la possibilité de le faire en ayant déposé mes enfants à l'école et en ayant un peu de temps où je peux le faire le matin.
Ouais.
Si j'ai pas le choix, bah, j'irai le soir. Mais réellement, je suis pas la personne qui va se lever à 5h, y aller à 6 pour avant de démarrer sa journée. Non, je vais essayer de caler à chaque fois pour que ce soit dans la journée.
Ok. Est-ce que tu as des records perso en course à pied dont tu es fier?
Bah, j'ai jamais vraiment couru après le chronomètre. Après, bah, j'ai fait moins, j'ai 3:26 sur le marathon, mais c'était sans objectif.
Ouais.
J'ai un 39 sur le 10 km, mais c'est pareil, j'ai pas les entraînements pour en fait, donc en fait c'est compliqué.
T'as jamais fait du spécifique?
Non,
pas spécifique.
Non, je pense qu'avec un, on me l'a déjà dit, et je pense qu'avec un entraînement spécifique sur 10, je peux approcher les 37-38.
Ouais.
Dans les 37 et quelques, mais je l'ai jamais fait. Donc, et puis j'ai 42 ans, maintenant c'est plus ce que je recherche. Donc,
bon, on n'est pas vieux à 42 ans,
ouais, mais j'ai plus envie de faire la vitesse, c'est bon pour ceux qui sont encore tout frais, tout jeunes.
Johan, je t'amène un nouveau client à coacher là.
Yes, ah, bah, voilà.
Mentalement, il est ok. Hein. Mentalement, il est solide. Bah, tu peux y aller.
On peut lui mettre des séances dures.
Ah ouais, a priori. Quelle est ta séance préférée? T'as des séances comme ça que tu préfères ou pas forcément?
Moi, je pars toujours. Alors, j'essaye évidemment, ça dépend de la course que je prépare. Mais si c'est un trail avec beaucoup de dénivelé, je vais manger de la côte forcément ou des escaliers. Après, j'ai la sortie longue classique. J'essaie toujours de courir un peu plus au-dessus. De ce que je devrais faire
de l'allure
parce que psychologiquement ça me permet de combler le manque justement de kilomètres que je fais.
Okay.
Donc je cours tout à limite 1 ou 2 km heure au-dessus de ce que je devrais faire.
Bon, ça, je suis pas sûr que ce soit recommandé par un coach, mais
je sais ça va pas recommander. Il faut apprendre à aller plus doucement.
Bon, Claude Dartois est donc avec nous cette semaine. On est ravis de t'accueillir. On le répète, tu rentres du Marathon des Sables. Tu vas pouvoir nous raconter tout ça. Mais dressons ton portrait pour que même ceux qui te connaissent te découvrent un peu mieux. Passionné de sport depuis tout petit, je le disais. Un peu touche à tout. Et malheureusement, effectivement, ce qui va peut-être te forger ce caractère de champion, c'est le drame personnel dont tu es victime à 9 ans. Tu perds ta maman, malheureusement.
Ça, ouais.
Et là, effectivement, bah, tu es obligé de te forger ce caractère qui fait de toi le champion que tu es aujourd'hui. Quoi.
Ouais, c'est pas la seule raison d'aujourd'hui de ma force au caractère. Je pense que c'est le fait d'avoir été face à un peu plus à soi-même et ses propres choix durant une longue période qui fait que c'est plus dur et t'es pas assisté. Donc au final, tu dois tout faire par toi-même et c'est ça qui forge. Mais c'est pas sur un fait, je veux dire, c'est sur les 15 ans qu'on découlait ou sur les 20
c'est
ans.
C'est l'accumulation effectivement de l'expérience de vie. Et puis d'ailleurs, tu mets un point d'orgue à ne rien, j'aime rien devoir à personne.
C'est
ta philosophie.
C'est ma philosophie.
Tu ne veux compter que sur toi, quoi.
Ouais, après, forcément, t'as les opportunités de vie, t'as les gens qui peuvent t'aider et tout, mais je veux dire, en soi, n'attends pas.
T'as pas envie d'être redevable de quelqu'un, quoi.
Ouais. Après, on l'est forcément redevable de quelqu'un, les gens qui t'ont donné une opportunité dans la vie ou qui t'ont fait confiance et tout, mais en soi, t'es pas là pour demander et ne pas attendre qu'on te le propose. C'est par rapport à ton travail, par rapport à ton assiduité et tout que les occasions se présenteront. Mais en tout cas, voilà, il faut essayer de pas redevoir les choses aux gens parce que après tu t'y perds aussi.
Ouais, c'est sûr. Donc pas un sport en particulier quand t'es jeune, tu touches un peu à tout, tu fais un peu de sport collectif, un peu de, comme tu disais, de cross, un peu d'escalade.
J'ai beaucoup de rugby aussi.
Ah, du rugby aussi,
Je pense que c'est le sport que j'ai pratiqué le plus longuement.
Tu grandis en région parisienne?
Ouais, je grandis dans le 19e et je jouais au CMS Pantin, j'ai joué à la SPP, à l'Association Sportive Police de Paris, mais j'étais un peu frêle et plus petit que les autres.
Parce que vu ton gabarit, j'aurais pas deviné le rugby.
Je sais, mais j'étais demi-mêlée, demi-ouverture, c'était mes deux postes de prédilection, mais je courais vite et j'avais des bonnes feintes.
D'accord.
Mais à un moment donné, ça suffisait plus. Bon. Arrivé en cadet, ils m'ont trop cassé, j'ai dû arrêter.
Plutôt Stade Français ou Racing?
Aujourd'hui, réellement, c'est difficile de choisir le Stade Français, même si j'aime beaucoup le Racing.
Bon, d'accord.
Tu l'as mis dans l'embarras.
Ouais, de fou.
Exactement. Et puis, évidemment, Claude, on te connaît tous à travers Koh-Lanta. Évidemment, la révélation de ta première année, c'est en 2010, c'est ça. Pour être totalement franc, moi, je suis pas non plus un client assidu de Koh-Lanta, même si je sais qui tu es, évidemment, parce que ta notoriété a dépassé l'émission à un moment donné. Je rappelle que c'est 4 participations, 4 finales. Et notre producteur Geoffrey Charpie, qui lui est un vrai dingo de Koh-Lanta, m'a envoyé une description hier soir et je l'ai trouvé assez marrant, donc je me suis dit je vais la lire à Claude. Il m'a dit: Claude, pour moi, il est considéré comme le meilleur aventurier de l'histoire de Koh-Lanta. Seul problème, il n'a jamais gagné. 4 participations, première en 2010, 22 victoires individuelles, on le disait, plus grand nombre de victoires dans l'histoire, qualité physique incroyable, vrai bon stratège qui fonctionne au mérite. Personne ne lui a jamais éteint son flambeau. Ça, c'est quand même un sacré exploit, parce que on connaît quand même le déroulé de l'émission et jamais quelqu'un n'a osé t'éliminer. En tout cas, il n'y a jamais eu une alliance contre toi qui t'a mené jusqu'à l'élimination. Et puis, cette fameuse règle des 4 S que tu maîtrises à la perfection: sport, stratégie, social et survie. Évidemment, Koh-Lanta, c'est un fait marquant dans ta vie. Le premier plus que les autres, 2010, c'est là où effectivement tu participes à ton premier Koh-Lanta. Défaite en finale contre Philippe, mais tout de même déjà, 7 épreuves individuelles remportées, c'était un record déjà à l'époque. Donc c'est là où tu as un coup de booster au niveau de la notoriété. Et personnellement, tu le vis extrêmement bien, j'imagine.
Moi, j'ai toujours été content de mes aventures, comme je dis. Et j'ai jamais eu de rancune ou j'ai jamais eu d'amertume par rapport au résultat final. Moi, quand je viens sur l'aventure, c'est comme quand je viens sur une course. Si je donne mon maximum et que je me suis investi pleinement, ma récompense, elle est dans tout le cheminement. Elle n'est pas forcément dans le résultat final. Et donc moi je suis pleinement content et je connaissais rien, je me suis...
Pourquoi tu te lances d'ailleurs dans l'aventure à l'époque?
Bah franchement, ça s'est fait vraiment au hasard. On venait de recevoir une nouvelle voiture, j'étais chauffeur, on avait une nouvelle voiture avec des télés à l'intérieur, je travaillais et j'ai de ma télé, je tombe dessus. Et je tombe sur la saison 2009, c'est en cours de saison, je commence à regarder, puis je me suis pris au jeu, j'ai continué à regarder, ma sœur qui regarde pas du tout la télé... Je suis chez elle, je lui dis non, on va regarder ça. Et puis elle m'a dit, ça c'est un truc qui pourrait te correspondre, t'as qu'à y aller. Je lui dis, fais-moi la lettre, si ça passe, j'irai. Et de fil en aiguille, ça arrivait comme ça. Mais c'est vraiment le pur hasard.
Ah, c'est pas toi personnellement qui t'es dit, j'ai les qualités pour être bon dans ce truc?
Non, moi je regardais avec l'esprit critique, comme chacun peut regarder quelque chose. Ouais, parce
tous laissent pas Johan dans son canapé, on se dit, bon, ça, moi je peux le faire.
C'est vrai qu'elle aimerait dormir dehors au milieu des trucs. C'est vrai que.
Non, mais Johan, quand. Franchement, dans notre petit ego personnel, chacun, on se dit tous, bon, moi j'irai quand même au moins à la réunification, bon, j'irai au moins au poteau, non?
Moi, je ne m'inscris même pas, déjà, ça me traverse même pas.
Toi, t'es trop douillé, mon vieux, c'est ça ton problème.
Ah ouais, non, mais moi, alors là, même pas ça m'a traversé l'esprit de faire ça.
Vraiment, on a tous les capacités en nous, c'est qu'une question d'acceptation. Si t'acceptes la souffrance, la dureté, en tout cas pas la souffrance, mais la dureté et les conditions, après, c'est comme tout dans tes entraînements, Johan. Je pense que voilà, des fois, tu dois accepter la séance pour qu'elle se passe bien, sinon, forcément, c'est difficile, mais.
C'est des bêtes fragiles, les athlètes.
L'élite, de toute façon, l'élite, ils sont sur le sommet de la pyramide. Ils peuvent basculer d'un côté ou à l'autre.
Ouais, c'est ça, exactement. Mais toi, t'as toujours eu ce besoin de te nourrir de challenge comme ça?
Moi, c'est la sortie la sortie de Koh-Lanta. J'avais 30 ans, 31 ans. Ça m'a redonné vraiment le goût de l'aventure,
donc,
du
2010,
défi.
Ouais, 2010. T'as pas la déception de la défaite en finale?
Jamais. Et même ma femme, encore aujourd'hui, elle me dit, moi, je comprends pas, ça fait 4 fois. Mais le mois, un quart d'heure après, c'est déjà fini. Je suis déjà passé à autre chose. Et quand je t'ai dit, je suis content de mes aventures. Je les ai vécues pleinement. J'aurais pas pu faire mieux. Le reste, je gagne pas, c'est le détail, tu vois, mais moi je m'attarde pas sur ce détail là en fait.
Est-ce que tu penses aussi que t'as payé tes trop grandes qualités quelque part, tu vois? Parce que t'étais un peu l'épouvantail de l'émission systématiquement, c'était toi quand même l'homme à battre. Bon, il y avait Théora aussi qui avait d'autres aptitudes.
C'est vrai que sur certaines éditions, on m'a fait payer la responsabilité.
Tu vois, on t'évite au maximum. Parfois, on te choisit en finale parce qu'on sait que tu vas pas gagner.
Ouais,
tu vois, il y a genre de trucs.
Mais après, ça reste un jeu, il faut bien le comprendre. Mais c'est vrai que sur 2010, par exemple, je prends 2010, on m'a fait clairement payer mon ancienne équipe, mon ancien groupe, j'étais chez les Rouges. J'ai cassé la majorité des Rouges pour récupérer quelques jaunes. Et à la fin, ceux qui étaient chez les Rouges, forcément, qui se sont retrouvés à voter m'en ont voulu parce qu'ils se voyaient aller loin et c'est moi qui ai tout chamboulé. Et en fait, à Koh-Lanta, ce qui est récurrent, c'est que les gens, ils n'ont pas le recul nécessaire parce qu'ils sont dans la maison des candidats, ils ressassent leur élimination et c'est jamais de leur faute. Moi, j'ai toujours dit, si un jour je me fais éliminer par quelqu'un, même si c'est mon meilleur ami et qui me l'a fait à l'envers, je dirais toujours, c'est ma faute parce que c'est moi qui n'ai pas su le voir et pas su m'adapter, pas su éviter ça. Et au final, les gens, eux, non, c'est leur faute.
C'est un
coupable.
Discours qu'on n'entend jamais. Hein.
Il leur faut un coupable coupable, il est toujours tout trouvé, c'est jamais de leur faute, c'est toujours celle de l'autre. Mais c'est comme ça, ça fait partie du jeu. En tout cas, c'est leur vision, c'est pas la mienne.
Bon, tu connais quand même Claude, Johan, moi, il y a cet extrême mythique. Où tu règles tes comptes et tu donnes les sacs à l'autre parce qu'effectivement elle avait pas respecté un truc. Enfin, c'est ça pour moi, ça c'est à Inès où effectivement tu files tes sacs, c'était Hallucinant cette séquence. C'est là où on découvre, même ceux qui ne suivent pas Koh-Lanta, on tombe sur un zapping sur cette image. On se dit, mais il est taré ce mec en fait. Il va jusqu'au bout de sa logique. Quoi.
Voilà. Ouais, parce que réellement, on nous avait rabâché ça la veille au soir et en fait, c'était se cacher derrière des dires. Oh, dis la vérité tout de suite, on n'en parle plus. mais tu vois, c'est ça en fait qui m'agace moi. Quand j'aime pas quelqu'un, je ne vais pas lui faire un sourire et le caresser. Je vais lui dire, écoute, on s'apprécie.
J'ai quand même
pas,
noté un record sur l'épreuve du paresseux. Est-ce que tu sais ce que c'est que l'épreuve du paresseux, mon petit Johan?
Ils sont accrochés sur un.
Un rondin.
Ouais, un rondin, voilà, exactement.
La tête en bas, là.
Voilà. C'est ça, en position du koala.
3h47. 3h47, et encore parce que Denis Brogniart vous a dit vous étiez deux.
Ouais.
Non, on rend le
on était, arrête ici.
C'était 3h47, on était plus nombreux que ça. On avait fait 3h11 avec Toura à une époque, avec déjà une évolution des règles pour nous mettre plus de difficultés et écourter le jeu. Et sur cette dernière édition là des légendes, on était quand même assez nombreux. On était 6 personnes encore au ce record-là, 3h11. Et ensuite, après, voilà, il a fait évoluer en mettant plus qu'en enlevant un bras, puis après en enlevant une jambe. Sinon, c'est vrai
vous
que.
Avez fini sur l'index. Au bout d'un moment, c'est dur.
Non, mais tu peux rester là. Je pense qu'on aurait pu rester sur en position normale, on peut rester longtemps.
Ouais, incroyable. Mais là, c'est pareil. Là, c'est uniquement une question de mental.
Ouais, c'est ça, dans la tête, vraiment.
Ça, tu t'entraînes quand même.
Ouais, comment
tu t'entraînes?
C'est vrai?
Non,
tu
t'entraînes pas. Non, après, en fait.
Comment tu prépares un Koh-Lanta, Claude?
Moi, j'ai jamais préparé un Koh-Lanta spécifiquement. Je fais du sport toute l'année. Quand je sais que je vais y participer, il reste plus beaucoup de temps avant. Je vais peut-être essayer de travailler un peu sur l'explosivité. C'est ce qui va me manquer. Voilà. Mais au final, non, parce que. Franchement, je viens avec mes acquis, puis voilà, tu sais jamais vraiment. Après, les jours, on les connaît, c'est jamais des. Bon, il faut être un peu physique sur l'épreuve du combattant, mais c'est pas le gros du jeu, c'est une seule épreuve, voilà. Donc, si tu commences à axer tout ton entraînement sur le physique, ben, il y en a, ils sont très forts physiquement, mais à Koh-Lanta, ils vont le payer, bien sûr.
Ouais,
il y en a qui arrivent aussi avec un surpoids parce qu'ils disent que voilà, ils vont économiser, ils vont perdre. Il faut arriver avec son poids de forme et avec l'envie et ça passe largement.
Mais on en revient toujours à la même chose et c'est ce qui fait la différence entre les athlètes et les athlètes de haut niveau, Johan, c'est le mental au bout d'un moment. La différence,
c'est
l'acceptation de la douleur,
c'est ça
quoi.
C'est le mental et d'autant plus sur un effort comme pour revenir sur le marathon, quand les jambes ne suivent plus au 35-37, c'est le mental qui prend le relais pour terminer les 5-7 derniers. Et c'est là où il faut être prêt à s'être fait un plan dans sa tête pendant 2-3 mois, les 2-3 mois de préparation, à savoir qu'on va subir, mais que ça va durer 7 kilomètres, quoi. Il faut accepter qu'on va sur quelque chose qui va nous faire mal et on est prêt mentalement à se faire mal, à se dépasser.
Comment tu gères, Claude, après la notoriété grandissante? Bon, j'imagine après la première édition, c'est déjà quelque chose, mais là, toi, t'es arrivé à 4 éditions, 4 fois finale avec ce statut de meilleur aventurier de l'histoire. Donc évidemment, peu importe où tu passes, on te demande des photos. Hein. Je sais que tu as fait le marathon de Paris, je crois, au mois d'octobre de l'année dernière. Là, c'est pareil, c'était la foire au selfie. comment tu le gères, toi? Ce qui est impressionnant, moi, ça fait 2-3 fois que je te rencontre, mais tu prends ça assez simplement avec philosophie, quoi, finalement.
Ouais, moi, je suis quelqu'un, je suis à la base, j'aime les gens.
T'es resté le même, en fait.
Je suis resté le même, j'ai pas changé, moi, j'ai pas attendu, voilà. Si tu veux, moi, j'ai déjà ma vie, elle est déjà faite, j'ai 42 ans, j'ai pas attendu ça pour, je suis content, aujourd'hui, j'ai des opportunités qui s'offrent à moi, je suis invité sur des événements, peut-être auxquels j'aurais jamais été si j'avais pas eu cette notoriété-là, mais je suis reconnaissant, mais les gens qui t'abordent et qui viennent te voir, c'est avant tout pour te remercier, voilà, parce qu'ils ont, ils ont passé un bon moment et tout. Moi, j'aime les gens de base. Une personne qui est timide, réservée, aurait des gros problèmes, je pense. Moi, c'est pas mon cas. Même avant ça, je veux dire, je suis en moto, je vais m'arrêter au feu, je lève ma visière, je vais parler avec le gars qui est à côté de moi.
Ouais, voilà.
Je connais dans mon immeuble tout le monde à peine arrivé. Parce que voilà, j'aime le contact, j'aime échanger, ça fait partie de la vie. Et donc, pour moi, c'est naturel. Je te dis pas que des fois, avec les enfants et tout, je dis pas que des fois c'est oui, peut-être, mais c'est plus pour les autres. Moi, en soi, moi je m'en fous, tu vois.
Ouais.
Moi, ça me dérange jamais. Les gens, ils peuvent venir comme ils veulent.
Tu le sais, on aime bien coller des étiquettes, hein. Évidemment, alors je vais te dire, moi je suis allé au salon du running avant le marathon de Paris avec Johan. Lui aussi se fait arrêter à chaque fois parce qu'effectivement, c'est considéré comme une star du marathon français. Donc là aussi, il faut faire des photos systématiquement, etc. Mais toi, t'as un peu l'image de l'aventurier français. T'as envie de t'en décoller un peu, ou je sais pas, un projet d'une nouvelle aventure, même pourquoi pas sur une autre chaîne, ou à la présentation d'émissions d'aventure, ou quoi que ce soit, c'est des trucs auxquels tu réfléchis, ou t'es pas du tout là-dedans?
Tu sais, j'ai pas de prétention aucune, moi, c'est la vie, je l'ai toujours prise de manière où elle s'est présentée à moi. Si je suis à l'écoute, je suis pas forcément chercheur. voilà, si les opportunités se présentent, qu'elles me correspondent, je l'ai toujours dit, je serai le premier à les écouter et à être attentif. Mais
t'es fermé à rien, mais t'as pas un plan de carrière défini.
Non, parce que j'ai pas l'ambition j'ai pas la prétention non plus d'enseigner ou de dire la vérité surtout. Donc non. Mais Johan, je reviens sur toi. Et je pense que c'est plus compliqué pour toi qui est un athlète de haut niveau quand tu viens sur un marathon. Bon là, en l'occurrence, tu commences à t'habituer. Mais quand t'es un athlète comme ça, que tu viens sur des compétitions, tu sais que c'est à quelques heures avant le départ et tout, t'as des objectifs bien précis. C'est fatigant psychologiquement. Ouais. Et je pense que toi, c'est plus stressant pour toi. Moi, je suis monsieur tout le monde. Si tu veux, en sport, j'ai pas de prétention, hormis de me faire un classement qui soit honorable pour moi. Ouais. Donc moi, si tu veux, j'ai fait les Templiers l'année dernière. J'ai perdu une heure au moins sur chaque ravito à faire des selfies avec tout le monde. Bah, l'heure perdue, ok, d'accord, c'est relou, tu vois. Mais au final, j'ai partagé avec les gens. Et j'ai même oublié des fois de remplir ma gourde, tu vois, sur certains ravito tellement je parlais.
Non mais tu vois, par exemple, Johan, quand il fait meilleur français, donc en 2021, d'ailleurs on y était aussi, toi tu l'as couru aussi ce marathon-là, t'as dû passer au salon du running et il y avait sa photo en 4x3 dans le salon du running, donc c'est vrai que mine de rien Johan, ça te met une pression particulière, et toi d'ailleurs tu m'avais dit, tu passes au salon dès que tu peux récupérer le dossard, après tu te mets dans ta bulle, sinon c'est insupportable.
Là, cette année, j'ai vécu le marathon un peu différemment parce que je courais pas et du coup, j'ai pu passer 3 jours à parler avec tout le monde, à faire tous les stands, à aller voir les organisateurs de courses, les marques, machin, truc. Chose que tu fais pas quand tu cours le marathon parce que tu passes le jeudi matin.
Pour une fois, il a dit bonjour.
J'ai même pas le dossard à récupérer, on nous l'amène direct à l'hôtel. Mais tu passes dire bonjour et après tu t'enfermes dans ta chambre et tu ressors qu'une heure avant le marathon, tu vois.
Bah, c'est quand même bien de partager avec les gens aussi, t'as vu.
Mais voilà, le côté convivial et tout ça, moi je l'ai découvert. J'ai découvert le salon du running pendant 4 jours, le mois dernier parce que je courais pas.
Et juste avant d'attaquer sur le marathon des sables, parce que c'est quelque chose qui me frappe, moi qui suis pas un féru de Koh-Lanta, je trouve quand même que le niveau physique des participants a évolué. On a parlé ensemble d'un pote qu'on a reçu, c'est Dorian Louvet, Dorian de Koh-Lanta, qui a fait moins de 2h30 au marathon là. Quand même un niveau physique désormais pour ceux qui y vont et qui visent la victoire qui s'est élevé. Toi, t'as dû voir la différence puisque toi, il y a eu quoi? Il y a eu 11 ans entre ta première ta dernière participation. Ouais, t'as vu une différence dans les profils?
Bien sûr, c'est sûr que les gens deviennent de plus en plus préparés.
Ouais, voilà.
Ils sont de plus en plus aguerris.
T'es plus le côté amateur comme avant.
Voilà, c'est vrai que moi, je suis parti avec la fleur au fusil carrément. Tu vois, maintenant, aujourd'hui, les gens, ils savent au niveau survie quoi faire. Ils ont des notions, ils ont vu les autres saisons, ils sont préparés. La production, maintenant, je pense aussi, essaie de caster aussi quelques profils le sportif plus aguerri. On a vu, il y avait aussi Dorian, mais il y a aussi Mathieu Blanchard, tu vois, qui était là, qui est sorti prématurément, mais voilà, qui est aussi un athlète de haut niveau, qui est apnéiste aussi et tout. Donc et on en aura de plus en plus. Il y en a, moi je regarde pas cette année, j'ai pas trop vu, mais je pense que chaque année tu as toujours un profil ou deux qui va se dégager.
Il y a un basketteur pro cette année, tu vois.
Un basketteur pro, il y a un pompier, j'ai entendu dire, enfin voilà, il y a des gens qui sont physiquement prêts. Après, je pense qu'une Formule 1 à Koh-Lanta, elle aura toujours un peu plus de mal qu'un 4x4.
C'est ce que j'ai tendance
à dire ça. Parce que il va pas me contredire, Johan, quand t'es un sportif de haut niveau comme lui, tu dois faire attention à ton nombre de calories, tu dois faire attention à ton alimentation, à tout. Et la machine, elle est habituée à avoir un certain rendement et un gaz pour pouvoir avancer. À Koh-Lanta, tu l'as pas, donc c'est toujours un peu plus compliqué.
En fait, Koh-Lanta, c'est de l'adaptation permanente.
Bien sûr, c'est l'adaptation et c'est ce que j'aime aussi parce que y a rien de réellement prédéfini et préécrit.
Ouais, c'est sympa. Au moins, tu sais pas vers quoi tu vas, même si tu l'as fait 4 fois.
Ouais, et puis tu peux être bien un jour et moins bien le lendemain.
Ouais, ça dépend de ce que tu peux manger, de tout ça. Les épreuves sont plus ou moins physiques. Des fois, c'est pas du tout physique. Donc,
ce que je note, c'est que tu regardes pas Koh-Lanta quand tu y es pas, quoi.
Mais j'ai jamais vraiment trop regardé. Là, en l'occurrence, si je regarde quand c'est les anciens qui reviennent généralement. Ouais, là, il y en a eu beaucoup ces derniers temps. Et
je comprends, c'est le mardi, c'est la Ligue des Champions.
Mardi, en plus,
Ligue
des Champions.
Mardi, voilà.
Ouais, évidemment. Alors, venons-en au marathon des sables parce que t'es venu nous parler de ça, évidemment. Juste rappeler à ceux qui nous écoutent ce qu'est le marathon des sables, qui est considéré comme l'une des courses les plus dures au monde. Course extrême à étapes dans le désert du Sahara en autosuffisance. Donc, tu as ton sac à dos avec ta nourriture, etc. On te fournit juste l'eau, mais ce que tu vas manger pendant les 6 jours, c'est toi qui l'as sur le dos.
C'est
important de le signaler. 1000 coureurs environ, 43 pays, 250 km à parcourir, c'est ça ? Dans le désert sous le soleil. Bivouac tous les soirs. 30 degrés quand t'es en journée, mais évidemment la température qui chute nettement lorsque t'es au bivouac sous ta tente. Édition 2022 exceptionnelle, rappelez ce qui s'est passé. 1 minute d'écart entre les frères El Morabiti. Rachid a gagné pour la 9e fois, 18h33, 1 minute d'avance sur son frère Mohamed. Et chez les femmes, victoire de l'Espagnole Ana Comet Pascua devant la Française Sissi Cusso, Sylvaine Cusso, qui a fait une magnifique 2e place. Alors Claude, raconte-nous déjà cette aventure. Déjà, tu te lances, on l'a dit, dans une préparation perturbée en plus. T'es arrivé, t'étais pas du tout prêt pour attaquer le marathon.
Ouais,
en
fait. Alors pour le coup, je suis pas l'exemple à suivre au niveau des préparations. Bravo. J'ai été blessé. Enfin, j'avais bien repris fin d'année. J'avais recommencé à bien préparer. J'avais pris le temps justement de faire beaucoup de préparation physique générale pour muscler tout ça. En plus, quand tu sors de Koh-Lanta, généralement, t'as toujours 6 mois pour faire le muscle parce que même tu vas chercher profondément dans tes réserves.
Ah, t'as 6 mois à t'en remettre quand même.
Donc, bah ouais, pour retrouver un bon niveau musculaire, je pense. Ouais, c'est le minimum. Et j'étais revenu un peu vite. Et puis après, j'ai bien couru janvier, début février, je me suis blessé. Début de fracture de fatigue. On ne savait pas trop si on était sur l'inflammation ou sur la fracture en elle-même, mais ça m'a obligé de m'arrêter 5 semaines. C'est un peu compliqué quand tu sais que tu vas manger 250 bornes et que tu cours pas.
En 6 jours.
Psychologiquement, c'était un peu dur parce que je savais pas où j'allais, j'avais peur d'aller surtout et d'être déçu de devoir arrêter parce que la douleur allait revenir. Et au final, ça s'est bien passé. Et tu vois, même 100 km, j'ai pu aller au bout, j'ai pu les finir, j'ai mangé tous les jours les étapes sans trop de difficultés.
Ouais. Johan, c'est une épreuve que tu connais, que tu
admires. On la connaît de nom et de réputation. Et là, pour le coup, ça fait partie des courses légendaires et mythiques. Hein. C'est 250 bornes en 6 jours et c'est ça, c'est l'autosuffisance et tout. C'est ça qui est dur.
Hein.
Et la température, enfin, quand tu vois les images et tout, les mecs dans la dune et tout, dans le sable, c'est une galère monumentale. Hein.
Justement, c'est quoi le plus dur finalement à gérer? Ça peut sembler bizarre à ceux qui découvrent vraiment, qui nous écoutent. C'est de la nourriture lyophilisée. Hein. Voilà,
c'est déshydraté.
Tu mets dans de l'eau et puis finalement.
Au chaud ou au froid, les deux sont possibles.
Après, c'est quoi le plus dur à gérer, Claude? C'est la chaleur, c'est l'enchaînement des jours, c'est le fait que tu dormes pas très bien le soir?
Réellement, je pense qu'il faut vraiment faire attention à l'hydratation. C'est la chose la plus importante, je pense.
C'est-à-dire boire toutes les 30
minutes. Ouais, on nous donne beaucoup d'eau et souvent, les coureurs, pour s'alléger, pour courir un peu moins, à certains PC, les PC, c'est les points de contrôle, il y en a 2, 3, 4, ça dépend des étapes, et t'es obligé d'y passer par là pour montrer que t'as pas coupé ou quoi que ce soit.
Ouais.
Et à chaque PC, tu récupères un nombre d'eau prédéfini, c'est une par exemple pour 8 bornes, 2 pour 10 ou 12, ça dépend des endroits. Et certains, pour s'alléger, remplissent juste leur flasque qu'ils ont sur eux, ça veut dire 1 litre, et avec l'autre, ils s'arrosent un peu puis ils s'en vont. Moi je pense que c'est les erreurs à éviter, il faut vraiment penser, prendre le temps de boire, récupérer, des fois il y a beaucoup de vent et le vent t'empêche de ressentir cette chaleur et tu peux vite oublier de boire et ça c'est la
cata.
Quand
il y a du vent, tu sens pas la chaleur effectivement.
Ouais, c'est la cata après parce que ce que tu prends pas régulièrement, tu vas le payer au bout d'un moment mais sévèrement, tu vois. Donc
il y a pas du tout d'orientation, t'as pas à chercher ton chemin.
Non, dans les objets obligatoires, t'as une boussole, c'est vraiment au cas où, mais généralement c'est assez bien balisé, le chemin a été fait déjà par beaucoup. Et il faut aussi savoir que c'est pas non plus 90% de dunes, hein. Le désert, il est fait de lacs séchés. Il est fait de chemins terreux, des chemins caillouteux de jeep. Il est fait de mèches,
Tout,
il y a vraiment de tout. Et donc voilà.
Pas que du sable.
Il y a pas que du sable. Alors les parties de sable, il y en a forcément. Des parties d'une à 7-8 km où là, il faut savoir bien les prendre.
Tu souffres sur les dunes?
Tu souffres, mais maintenant, en fait, réellement, j'ai trouvé que je m'étais plutôt bien adapté avec Sam sur ces dunes-là. On gagnait beaucoup de temps.
Sam, qui est un autre candidat, ex-candidat de Koh-Lanta, qui est venu avec toi. Ouais. Qu'il a fait avec toi.
Et on s'est bien adapté, on n'allait pas dans les traces des autres où vraiment là c'est tout le monde à mélanger le sable et c'est vraiment le bord de plage, c'est la plage. Nous on allait vraiment sur les dunes au sommet, on s'écartait de voir de 50 voire 100 mètres.
Ouais.
Et on prenait vraiment toutes les côtes avec, on regardait où le vent soufflait et là où le vent souffle et passe, ça tasse le sable. Et donc là t'es pas en fait, tu vois qu'il y a une bonne trace, tu vois ta trace de chaussure. Quand tu vois la trace de chaussure dans le sable, c'est bon signe, ça veut dire que c'est assez solide,
assez dur.
Et nous, en s'écartant, souvent on disait, mais est-ce qu'on va pas perdre de temps? Mais non, on a gagné beaucoup en faisant ça.
Tu gagnes de l'énergie,
De l'énergie aussi.
Parce que c'est une fatigue accumulée que tu n'as pas, effectivement.
Ah ouais, c'est clair.
Donc, effectivement, les étapes sont pas toutes les mêmes, hein. Parfois, t'as du 30 km, parfois du 80, t'as une.
Ouais, on a commencé 30, 38, on a eu 32, on a eu 86 la longue. La longue, elle est toujours entre 70 et 90. Et après, t'as le marathon, donc le 42. Et à la fin, une étape solidaire de 7 km. Qui n'est pas chronométré, mais qui est obligatoire.
Parce qu'on a parlé de la chaleur, est-ce que le froid est dur à gérer le soir sous les tentes?
Les températures peuvent vraiment tomber. Ouais. Après, dans ton matériel obligatoire, tu dois avoir un duvet. À toi de prendre le bon choix. Certains avaient des duvets très gros, qui sont pas du tout compacts, mais très chauds, mais qui sont très encombrants. D'autres avaient des minimalistes tout petits.
Le tapis de yoga.
Ouais. Après, tout dépend de ce que t'emmènes. Tu sais, moi, j'avais un t-shirt manche longue pour le soir et une tenue de peintre sur les chantiers.
Une combi intégrale.
Ouais, un petit combi intégrale. Je me mettais ça dans le sac de couchage, c'était parfait. Comme une peintre est légère, prend pas de place, elle prend tout le corps et pas, elle est pas coupée en deux, donc réellement c'était la situation parfaite.
Et pour terminer sur l'équipement, tu pars sur des chaussures de trail?
Oui, chaussures. Il y en a beaucoup, comme Julien Chaurier qui est un champion qui a fait 5e cette année. D'autres encore, il y avait Cédric aussi, ils avaient tous des chaussures de avec des carbones même. Ils avaient des carbones chaussures roues de carbone les deux.
Ouais. D'accord.
Ouais. En fait, comme je te dis, il y a beaucoup de passages qui sont assez durs. C'est le choix. Moi, forcément, 90% des gens prennent des chaussures de trail évidemment, et c'est ce que j'ai fait.
Et d'ailleurs, t'as un équipement
une guêtre. Le guêtre et la petite astuce, c'est de faire coudre justement, de coller et coudre sur le mèche de ta chaussure les scratchs pour pouvoir scratcher ta guêtre.
Toutes ces petites astuces, on vous en parle avant de partir?
Non, c'est à toi de. Alors il y a plein de forums qui sont créés. T'as des gens qui racontent leur expérience aussi. Moi, j'ai fouiné, j'ai cherché un peu partout. Et tu vois, et mon cordonnier, et je lui ai dit là en retour, il m'avait collé. Sur ma semelle, et il avait juste cousu un bord sur mon mèche. Et ben, toute la partie colle s'est enlevée. Heureusement qu'il avait cousu une partie, ça a évité qu'elle s'enlève complètement. Mais si j'ai un conseil à donner, c'est vraiment coudre les deux côtés sur le mèche un peu plus haut, pour éviter toute arrivée de sable.
C'est important de savoir tout ça et de pas partir à la fleur.
Ouais, c'est des détails. Aujourd'hui, tu referais différemment parce que t'as l'expérience, t'as tellement de doutes, tellement de questions.
Ce qui est dur aussi, quand on voit les images et les docs qui sont faits sur le marathon des sables, c'est l'état des pieds à la fin des étapes.
Ouais,
les ampoules, c'est l'angoisse de tout le monde.
Alors, il y a vraiment une grosse équipe de docs trotteurs. Non, tu peux pas. Enfin, il y a très peu. Alors, je sais
compliqué.
Que certains élites, ils sont sortis avec les pieds très, 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 très beaux. Je pense qu'ils ont aussi une qualité de peau différente de la nôtre.
C'est possible.
Mais au final, non,
vu qu'un athlète avait couru pieds nus. Hein,
ouais, il a terminé pieds nus, l'espagnol. Bah, il est quand même record de. Il avait déjà fait le record sur glace, il a pas mal de records, donc il était bien strappé, mais il a fini pieds nus. Et c'est une belle prouesse, parce que je pense que l'année d'avant, il y a quelqu'un qui avait essayé, qui avait dû abandonner la troisième étape. Ouais. Moi, je ne suis pas conseillé, hein. je ne conseillerais pas parce que c'est un peu extrême.
Les ampoules, tu en as souffert?
Les ampoules, j'en ai eu sur 9 orteils sur 10, mais c'était sur les orteils, donc je n'ai pas eu la plante voûtère impactée, ni le talon, donc ce qui ne m'a pas empêché de courir.
Quand même,
Je pense que ceux qui sont attaqués au niveau de la plante voûtère, là, pour le coup, c'est compliqué pour
eux. Dessous, si c'est abrasif,
C'est dur.
C'est compliqué.
Voilà,
c'est quand le sable rentre dans la chaussure que ça devient abrasif avec la transpiration et l'humidité.
Mais après, c'est vrai que des échauffements, il y en a forcément. Mais les guêtres que j'avais étaient assez aérées. Donc, on n'a pas eu une saison qui a été très, très chaude. Donc, au final, ça s'est bien passé. Mais heureusement qu'il y a une bonne équipe de médical qui peut permettre.
Tous les soirs, vous avez des soins.
Il y a des fois, il y a la queue. Hein, si tu arrives un peu dans le ventre mou, tu vas taper une heure et demie de queue avant de pouvoir te faire soigner. Ils invitent quand même les gens à se soigner eux-mêmes, mais réellement c'est plus sécurisant et t'as envie quand tu vis une aventure comme celle-ci qu'on fasse attention à toi et donc tu prends le temps d'y aller tous les jours.
C'est ça, en fait le secret, enfin c'est la chance qu'il faut avoir, c'est de pas être touché au niveau de la voûte plantaire. Ça t'est déjà arrivé toi aussi, Johan, de souffrir d'ampoules comme ça sur des gros objectifs, des gros marathons ou finalement non? Parce que les distances sont plus courtes. Si ça t'arrive encore.
Moi, ça m'était arrivé de me brûler au niveau du talon, au niveau du tendon d'Achille, et du coup, avec le contrefort des chaussures à l'arrière, c'était. Je pense que c'est pire que parce que je supportais vraiment plus une chaussure fermée, quoi. Donc, du coup, j'ai essayé de marcher sur la semelle et de serrer fort la chaussure, mais tu perds du maintien. Et j'avais perdu 10 jours d'entraînement dans une préparation marathon. J'avais fait des sports un peu portés, des sports différents, mais c'est assez frustrant et c'est, enfin. Le problème, c'est que si tu soignes pas, l'ampoule elle reste, la peau s'arrache et puis ça revient. Enfin,
alors, quelle est la technique, Claude? Il faut percer ou il faut pas percer une ampoule?
Il y a plusieurs écoles. Ça dépend. Et puis il y a ceux qui sont sur l'école juste percer avec une aiguille, aspirer avec une seringue le liquide à l'intérieur et puis te remettre un peu de l'éosine à l'intérieur.
Ouais, pour assécher.
D'autres qui sont pour ouvrir la cloque avec un petit scalpel dans la longueur et puis après mettre de l'éosine et après bien refermé avec un sparadrap pour que ça colle et que ça bouge plus. Donc il y a deux écoles. D'accord. Moi, j'ai eu les deux sur les deux expériences et les deux sont bien passées.
Ok, bon bah ça va alors pour l'instant. Mmh. La question que tout le monde se pose, c'est est-ce que finalement un marathon des sables c'est plus dur qu'un Koh Lanta ? Ce qu'on peut dire, c'est que c'est complètement différent.
Ouais, évidemment.
Et ce qu'il faut signaler aussi, c'est que paradoxalement, il y a très peu d'abandons sur un marathon des sables. Hein.
Ouais,
il y a plus de 90% des gens qui arrivent au bout. Hein.
Ouais, parce que déjà, c'est, je pense que quand tu viens sur marathon des sables, t'as vraiment envie.
Oui.
Oui, c'est un sacrifice, c'est un engagement, c'est un coup. Ouais. C'est souvent une préparation longue. Et comme je dis, les barrières horaires sont suffisamment grandes pour permettre au plus grand nombre justement de finir, même en marchant. Donc moi, je n'étais pas allé pour marcher pendant 250 km, sinon ça m'aurait ennuyé. J'avais pas eu le choix à cause d'une blessure, je l'aurais fait quand même. Donc au final, les gens finissent parce que voilà, il y a la possibilité de le faire avec la barrière horaire.
Ouais. Donc tu dirais que c'est pas forcément même la course la plus compliquée que tu as faite, parce que t'as fait le trail des Templiers.
J'avais fait déjà aussi la Saint-Élion de nuit.
Ouais, la Saint-Élion dans le froid en plus.
Ouais, elle faisait 10 bornes de plus, ça faisait 82. Puis ouais. Elle avait plus de minuit du moment du départ jusqu'à 8h le matin.
C'est pas la course qui t'a le plus fait souffrir alors.
Non, bah, pour l'instant réellement j'ai pas eu cette. J'attends toujours la course qui va me mettre dans le.
On va finir.
Ouais, elle va arriver. Bah, je pense que j'en ai plein. Je les vois, mais je ne sais pas encore essayer.
C'est ça, ouais. La nourriture, non ?
Non.
L'utiliser,
ce que j'ai aimé.
T'es pas saoulé au bout d'un moment, non ?
Non, réellement, c'était très bien. J'avais l'Ophilisenko, je le cite, hein, désolé, mais qui est une belle marque avec des bons produits adaptés. Et j'étais très, 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 très content de ce que j'avais pris. J'avais pu faire des choix spécifiques avec beaucoup de calories. Il faut savoir que l'organisation impose un nombre de calories jour minimal. C'est de 2000.
Ouais.
Elle s'est pesée. On s'est fait contrôler les sacs avec tout le matériel obligatoire et tout. Et si te manque quelque chose ou t'as pas les calories nécessaires, c'est une heure de pénalité qui peuvent s'ajouter à toi. Donc quand t'es les élites que tu joues pour la gagne et tout, c'est compliqué. Et réellement, moi, je suis parti avec beaucoup plus. Hein. J'avais quasiment 1000 calories de plus par jour.
Toi, tu savais que t'avais.
Ouais, je savais. Le confort, en fait, il est ce qu'il est, mais il faut pas négliger l'apport en énergie. Certains, voulant s'alléger le maximum, étaient souvent avec des barres ou des choses comme ça. Et je pense que une journée ça va, deux jours ça va. Il y en a beaucoup, au bout de 3-4 jours, ils en pouvaient plus de leur barre, quoi.
Bah non, au bout d'un moment, comme les ultra trailers, ils te le disent, hein, il faut varier le salé, le sucré.
Le sucré, c'est dur. Hein.
Ouais, exactement. Dur. Est-ce que tu as d'autres conseils de préparation à donner pour ceux qui nous écoutent et qui auraient l'envie justement de se lancer sur le marathon
du Il faut jamais s'inquiéter de. Si, j'avais coutume de dire, si le défi te fait pas peur, c'est qu'il est pas assez grand pour toi. D'avoir de l'appréhension, d'avoir des doutes, c'est normal et c'est légitime. Mais il faut toujours garder la réserve en soi, de se dire qu'on est capable de le faire quoi qu'il arrive. Mmh. Et après, essayer de mettre les chances de son côté dans la préparation en essayant de regarder de prendre tous les bons conseils qu'il y a à prendre et voilà. Après, faut pas, on se posera toujours plein de questions, mais une fois que t'es dedans et on est toujours beaucoup plus fort que ce qu'on pense et ça faut pas l'oublier.
Le rapport marche-course, t'as couru quoi, 70% du...
Ouais, facile, ouais, bah de toute façon
j'ai
trottiné quasiment tout le temps, sauf dans les parties dunes très très difficiles où voilà, c'était plus une marche rapide. Mmh. Ensuite j'essayais de relancer à chaque fois dès que possible. C'est comme je dis, si tu cours beaucoup et tu t'arrêtes beaucoup en marchant, après tu fais trop d'accumulation de toxines dans les muscles, ça devient de plus en plus dur de repartir. Il faut essayer de relancer régulièrement, même si c'est pas vite, mais il faut relancer. Et puis même, c'est une question aussi de garder un peu ton cerveau en alerte, hein, ouais. En te disant, ouais, voilà, il faut y aller et pas tomber dans la monotonie.
C'est le type de course qu'on fait une fois et qu'on a envie de refaire ou...
Eh ben, je t'aurais dit que sur le moment même, c'était bon, je voulais plus la refaire.
Mais c'est finalement, comme tout, non, mais 15 jours plus tard, t'as envie de retourner.
Mais c'est comme tout. Koh Lanta, à chaque fois, je disais, je n'y retournerai pas, je fais les 4 fois. Mais au final, je pense que une fois pour la vivre pleinement, comme mon premier Koh Lanta où c'était à la découverte, et c'est souvent les plus belles. Une deuxième fois pour confirmer, c'est bien. Peut-être qu'un jour j'y retournerai pour confirmer.
Tu fais 124e, hein, on l'a pas dit pour l'instant, ouais. Mais et on en parlait un petit peu en dehors tous les deux. Tu penses que top 100, même
ouais,
un peu plus
accessible bas, avec un bon entraînement, avec un sac allégé, ouais. En étant
avec des bâtons peut-être.
Ouais, non, il y avait moyen de faire mieux sur cette saison, sur cette édition-là. Je pense pas, parce que j'étais limité dans l'entraînement et je suis allé doucement avec ma fracture sur le premier jour. Mmh. Mais au final, ça s'est bien goupillé. Je suis pas fini en rotule. J'ai pas eu des grosses des gros problèmes physiques, tout ce qui est crampes ou quoi que ce soit. Donc je pense que j'avais moyen de gratter un peu, mais avec une préparation un peu plus poussée, il y a moyen de rentrer dans le top 100 largement.
Ouais, effectivement. Bon, après, sache qu'il y a une équipe RMC Running qui va peut-être se monter pour...
Ah, je vous le souhaite, les gars. Par contre, voilà, si vous faites ça, je prends du temps pour réellement vous aider
à venir
maximiser.
Tu veux revenir ou pas?
Peut-être pas l'année prochaine.
J'ai d'autres projets.
Excuse-moi, Yohan, tu voulais dire quelque chose?
Non, c'était 21 avril, 1er mai 2023, t'es occupé, c'est ça?
Ouais, c'est les dates. Ouais, il y a quelque chose de prévu pour Claude, on va essayer de gratter, de savoir ce que c'est. Oui, parce qu'on s'est chauffé, nous, on commence à en parler, on commence à se dire, est-ce qu'on monte une équipe? Bon.
Faites-le.
Dans l'équipe, il y a Geoffrey Charpie, le producteur, bon, qui n'a jamais fait une course de sa vie. Il y a Arthur Robert, notre grand chef, qui lui n'a jamais couru plus de 10 km.
Justement, ça va être intéressant.
Là, ça peut être quelque chose. Ouais, moi, je vais devoir faire l'assistante sociale, pourquoi pas. Bon, même si moi j'ai jamais fait plus de 42 km, hein. Mais en tout cas c'était très sympa de nous avoir raconté cette expérience. Ça donne envie, hein. C'est vrai que ça donne envie de faire le marathon des sables.
Avant d'être une course, c'est une aventure.
Ouais, c'est une aventure humaine, ouais, j'imagine.
C'est une belle aventure. Il y a vraiment toute une solidarité à travers les bénévoles qui sont là pour nous aider à aller plus loin.
C'est une ambiance géniale, ouais.
Bah ouais, les coureurs, tous les gens qui viennent, etc. Tu viens un peu en autarcie avec 9000 personnes plus le staff, hein, pour 1500 personnes.
Ouais.
Et au fur et à mesure, tu apprends à les connaître, à les revoir, t'as des visages qui sont familiers et tout, et tu crées vraiment quelque chose qui peut ressembler un peu à ce qu'on vit sur Koh-Lanta. C'est ce que j'ai beaucoup aimé dans cette aventure-là.
Et juste, ça ne m'a pas échappé ce que tu viens de me dire, parce que tu m'as dit, tu vois, Koh-Lanta, on a envie d'y revenir, même si là, machin, tout ça. Koh-Lanta, là, le dernier Koh-Lanta auquel tu as participé, c'était ton dernier Koh-Lanta?
J'avais dit que c'était mon dernier.
C'est quoi, c'est une négociation avec ta femme? Comment ça se passe?
Non, j'ai dit que ce serait le dernier. J'ai plein d'autres défis à faire. J'ai des courses que j'ai envie de faire. Et
donc Koh-Lanta, c'est terminé.
Je pense que Koh-Lanta, c'est terminé. Oui.
D'accord. Bon, t'en es sûr ou tu te laisses une porte de...
je pense que c'est terminé.
Bon, et les prochains défis? T'as d'autres défis sportifs en tête? J'ai lu que pourquoi pas tu pensais à un Ironman, tu pensais peut-être à la Diagonale des Fous.
Bien sûr. Ouais,
ce sont des défis qui te font rêver, ça?
Ouais, toutes les courses un peu qui sortent de l'ordinaire, qui font appel un peu à ton imaginaire.
Tu connais la Barclay, ça t'intéresse?
La Barclay, je la connais, mais réellement, celle-ci, elle est un peu, elle est dans l'extrême, tu vois.
Ah, ouais.
Je crois qu'avec Johan, on était effrayés, parce qu'on a fait un épisode spécial avec un Français qui est rentré il y a quelques jours. Effectivement, on est plus Marathon des Sables que Barclay, je crois.
Ouais, mais réellement, ça c'est, je pense qu'avant, toi, t'as le Tor des Géants, t'as d'autres qui sont encore beaucoup, qui sont très difficiles avant d'aller sur celle-là, qui est
Hard Rock, peut-être,
ouais, il y a les 100 miles, il y a plein de, j'ai envie de faire le 100 km de Millau. Enfin, il y a plein de courses différentes sur différents types qui me plaisent. Différentes surfaces aussi, donc pour l'instant moi j'ai pas un temps libre infini, donc j'essaie de maximiser.
Bon, et on passe tout de suite à la séance, justement, monsieur.
Allez, yo.
RMC,
la séance.
Et oui, Johan, le sable est un drôle de terrain de jeu, évidemment. Le marathon des sables, ça pousse à surpasser pendant 6 jours sur cette surface si particulière, mais courir sur sable, ça peut avoir des bénéfices pour n'importe quel coureur. Déjà, c'est peut-être un plaisir, Johan, parce que courir sur le sable, ça veut dire que quand on est à la plage, on peut aussi courir pieds nus. Et ça, mine de rien, c'est pas le cas tout au long de l'année pour ceux qui vivent pas en bord de mer. Hein.
C'est vrai que c'est compliqué de courir pieds nus si on n'est pas habitué et si on vit pas en bord de mer.
Ouais.
On peut le faire sur la plage. Hein. Ça, c'est vraiment très bien parce que ça permet un peu de te ressourcer. Tu sais, en bord de mer, de courir pieds nus, t'as cette sensation un peu de liberté, d'évasion. T'es tranquille. T'as cette différence d'appui dans le sable suivant les marées, tu sais, t'as du sable mou, du sable dur, du sable mouillé, et donc courir pieds nus, ouais, ça apporte de la richesse des appuis. Et puis l'homme, naturellement, normalement, on n'a pas de chaussures. On a inventé la chaussure parce que par rapport à plein de paramètres. Mais normalement, on est fait pour courir pieds nus, et du coup, on retrouve ce sentiment de liberté qu'on avait il y a 200 ans, quoi.
Ouais, exactement. En plus, ça peut être considéré, quand tu réfléchis, parce que c'est une surface particulière où ton pied t'enfonce, comme un renforcement musculaire. Faut le prendre peut-être comme ça, d'ailleurs, quand tu travailles spécifique.
Dans le sable. C'est vraiment le but, c'est de se renforcer. Quand on va faire une séance dans le sable, il faut pas en faire, pas régulièrement, et on peut en faire. Mais le but, c'est vraiment de se muscler, hein, parce que c'est un effort qui est totalement différent à ce
qu'on
trouve
éviter d'habitude. La pratique quotidienne si on est en vacances,
c'est
par
ça.
Exemple.
Ouais, exactement.
Sinon, tu te crames,
c'est différent de la route et des chemins, mais tu fais du renforcement naturel, hein, c'est-à-dire que tu vas renforcer tes chevilles parce que tu vas être sur un terrain instable, tu vas travailler les stabilisateurs de la cheville, tu vas travailler la proprioception, la force. Plus tu vas être dans du sable mou, plus tu vas devoir mettre de la force dans ton pied pour pouvoir t'en sortir et tout ça. Et du coup, ouais, c'est un travail à faire, pas tous les jours, mais on peut le faire. Et après, il faut le faire de façon intelligente, en étant progressif et des choses comme ça.
Quelle différence pour le corps entre le sable dur, le sable mouillé et le sable tout sec, tu sais, où tu t'enfonces vraiment?
Ouais, bah, t'as le sable un peu mou, il permet vraiment d'atténuer les chocs, c'est ça le plus intéressant. Mais le problème, c'est qu'il y a vraiment zéro restitution d'énergie. Plus le sable va être mou et plus ça va être dur d'aller vite. Donc du coup, ça va être à toi de mettre un gros travail mécanique dans ton pied pour essayer de trouver de la force et de te sortir justement de ce sable mou. À l'inverse, le sable un peu plus mouillé, un peu plus tassé, tu sais, quand la marée est passée, bah là on se rapproche un peu plus d'un chemin et là on est plus c'est l'idéal, le mieux c'est de démarrer sur du sable un peu mouillé comme ça, on se rapproche un peu de la route et progressivement on va vers des sols un peu plus mous.
Le conseil qu'on peut donner aussi, c'est de pas du tout respecter les allures qu'on a sur route ou sur piste, parce que ça n'a rien à voir.
Ça absolument rien à voir. Ouais. Le seul but, c'est de bosser là-dedans, c'est de faire du fartlek un peu court.
Voilà, c'est
ça. On fait du fartlek court, des 30-30, des petits sprints pour changer un petit peu et vraiment essayer de travailler cette intensité pour bosser cette force musculaire. Soit je fais des travails de technique, des montées de genoux, des talons-fesses, des choses comme ça, où l'idée, ça va être vraiment de travailler sa cheville, sa proprioception, son renforcement et les choses comme ça. Faut savoir que dans le sable, le cardio, il va monter direct, hein. Donc, vous pouvez pas faire, des 5 minutes comme on peut le faire sur la route, hein.
Quand vous sprintiez la Koh-Lanta, là, dans le sable, là, sur les épreuves, vous avez quoi comme chaussures, d'ailleurs, des running? C'est quoi les
Ouais, moi, j'avais pris, deux paires de Asics, des trails. J'avais pris une paire de triathlète pour tout ce qui était eau dans l'eau, pour aller dans l'eau, pour pêcher, etc. Et j'avais une paire mes Fuji Trabuco que j'utilisais sur les épreuves et sur le camp.
Ouais, t'en as ras le bol à un moment du sable, de courir dans le sable et tout, non?
Moi, franchement, je pourrais passer ma vie pieds nus, hein.
Ouais, voilà. On va en Koh-Lanta, au mieux, effectivement. Ouais, et puis, quand on court, pareil, quand on veut mettre des chaussures, c'est ça, on garde ses baskets habituelles, il n'y a pas besoin d'aller chercher une autre paire.
Vaut mieux garder ses baskets habituelles, parce que courir pieds nus, faut s'y habituer, hein. Faut le faire de façon progressive, comme
tu peux te blesser sur le sable, Yo, d'ailleurs.
Ouais, c'est la problématique, ça va être les tendons d'Achille qui vont être vraiment sollicités, parce que ça va être des sols mous. Et moi, je sais que je suis hyper sensible sur les tendons et je sais que dès que je vais dans le sable ou dans des sols un petit peu instables, bah on va avoir cette difficulté là. Et après, ce qu'il faut faire gaffe quand on court pieds nus en bord de mer comme ça, c'est les cailloux, les bouts de verre, les coquillages coupants. Des fois on s'en rend pas compte, c'est tout bête, mais les risques de coupure, ils sont là, tu vois. C'est un petit coquillage machin, une huître, tu cours sur une huître, tu vas voir si tu vas pas.
Ouais, c'est surtout un verre de
canard. Ouais, c'est ça,
un verre cassé, un truc comme ça.
Ouais, donc là, faut faire gaffe à ça. Hein,
c'était arrivé, Claude, la coupure à Koh-Lanta, la coupure au pied.
En fait, sur les rochers, c'était très coupant. Là, on allait, tout le monde était obligé d'avoir des chaussures pour aller dans l'eau.
Ouais.
Parce que là, pour le coup, il y avait beaucoup de coraux et c'était très, très coupant. Ouais, donc, il fallait faire attention. Mais je reviens sur Johan, on te l'a déjà dit, une Ferrari, c'est clair, elle va pas sur le sable.
Et
c'est sûr, du bitume, avec des pneus slick.
C'est bien. Non, mais c'est ça.
Tu rigoles, il y a 15 jours, on a essayé de le mettre dans un kayak. On lui a dit, est-ce que tu veux venir faire du kayak avec Julie Roux, qui a été championne de kayak polo, c'est du water polo en kayak, et de l'équipe de France de trail. Il a dit non, l'eau, c'est pas pour moi. C'est des petites natures, ces mecs, tu sais, c'est comme dans le Louvet, tu vois, tous les
kilomètres.
C'est ça, incapable de s'adapter. Bravo.
Non.
Allez, on passe au bon plan de ça.
RMC,
le bon plan dossard.
Vous le savez, toutes les semaines, on met des courses en avant pour garder de la motivation. Vous allez chercher justement vos prochains dossards, vos prochaines courses. Et effectivement, on va parler d'une course qui peut te plaire, Claude, puisqu'on va parler de la Spartan Race. Évidemment, les courses à obstacles, les célèbres courses à obstacles qui sont organisées un peu partout en France. Il y aura une prochaine à Carcassonne dans quelques jours. On accueille l'un des responsables, c'est Olivier Castelli. Bonjour Olivier.
Bonjour à toute l'équipe.
Bonjour Olivier.
Merci d'être avec nous. Course à obstacles. Là, on a Claude de Koh-Lanta. C'est le candidat idéal, je pense, Olivier. Hein.
Ah oui, on a eu plein d'aventuriers qui sont déjà venus faire des.
On doit se balader là.
Des Spartans.
Ah, t'as fait deux.
Ça leur correspond bien, c'est sûr.
T'as fait lesquels, Claude, du coup?
Excuse-moi Olivier, parce que en fait, je suis en train de lui dire à Benoît, j'en ai déjà fait deux à Jablin. Oui. J'avais déjà fait deux à Jablin. J'avais fait les deux super là qui font 15 km, je crois, avec 20 obstacles, quelque chose comme ça. Avec plutôt un bon résultat.
Exactement. Ouais.
Ouais. Et alors raconte-nous l'expérience. C'est sympa à faire.
J'aime beaucoup évidemment. Ouais, ça allie tout ce que j'aime aussi. La course à pied où là, il faut être bon sur les parties roulantes pour relancer. Surtout que si tu manges des burpees, c'est compliqué. Mais aussi après, ça fait appel aussi à ta dextérité sur différents agrès, sur différentes parties d'obstacles. Donc tu peux avoir forcément de la grimpe sur des murs d'escalade, tu peux avoir des tirages de cordes, tu peux avoir de la force, et c'est ça, du ramping. Donc c'est vraiment être complet.
C'est quelque chose
que j'aime beaucoup. J'avais fait deux à Jablin que j'avais beaucoup apprécié. Après, je me suis écarté un peu parce qu'ils ont arrêté Jablin, et après c'était un peu plus loin. Ils ont fait le Stade de France, mais le Stade de France, je trouve que c'est un peu moins nature.
Ah, c'est moins esprit Spartan.
Si, c'est toujours bien parce qu'il y a des marches et des escaliers et tout, mais pas.
Olivier.
Le Stade de France, c'est ce week-end.
Il y a beaucoup d'anciennes Koh-Lanta qui y vont d'ailleurs.
Ah, exactement.
Exactement, ouais, on a une petite équipe. Une petite équipe qui sera là samedi.
Alors Olivier, ça parle à des champions comme Claude, mais est-ce que c'est accessible à tous ?
Ah, c'est accessible à tous, tout à fait. Après, c'est vraiment une question de motivation et de dépassement de soi.
Ouais.
Un peu comme sur un triathlon, sur un marathon, en fait, hein, il va vraiment y avoir une catégorie élite qui performe et qui ont des performances qui sont dignes de sportifs de haut niveau. Et puis après, il y a chacun son rythme. C'est surtout la volonté d'aller au bout de l'effort, de rechercher des sensations un peu différentes et d'allier à la fois la partie running et la partie, comme disait Claude, hein, c'est vraiment très complet parce qu'il y a des gens qui sont plutôt dans la force et pour eux, certains obstacles vont être relativement faciles. Après, ils vont avoir moins de dextérité sur certains obstacles d'équilibre, etc. Et là, ils vont être obligés de faire des burpees. Donc, en fait, au final, chacun a un petit peu ses qualités, ses défauts, et c'est là-dedans qu'il faut réussir à trouver un équilibre, en fait.
Comment on se prépare alors? Parce que c'est des courses à obstacles, mais on peut pas trop préparer les obstacles. On fait quoi? On fait juste un renfo au niveau du running, Olivier, pour arriver en forme? Comment ça se passe?
Alors, ça reste quand même une catégorie running.
Ouais. Hein,
ça reste quand même un sport où la course à pied est relativement importante.
Ouais.
Mais après, c'est vrai que tous les obstacles qui viennent au fur et à mesure, en fait, te font perdre un peu ton énergie. Donc du coup, on voit des très très bons coureurs à pied qui en fait explosent au bout de 5-6 kilomètres parce qu'après quelques obstacles, en fait, ils n'ont pas du tout.
Encore un truc qui n'est pas pour Durant, quoi.
Voilà, exactement. Ils n'ont pas l'endurance en tout cas. Non, mais c'est une réalité. Et du coup, on a vu ces athlètes-là qui venaient en particulier, alors soit du trail, hein, parce qu'on reste quand même sur des schémas. Alors j'avoue que c'était un peu plat. Ouais. Mais Morzine, par exemple, il y a quand même 1200 mètres de dénivelé sur la 21 kilomètres. Voilà, donc c'est quand même beaucoup plus typé trail ou cross à la limite, quoi. Mais du coup, on a vu ces athlètes-là évoluer et venir à faire beaucoup de fitness, en fait, hein, faire un petit peu. Bien sûr, du renforcement, des burpees.
Autre question importante, Olivier, l'équipement. On part équipé comment? Parce que est-ce qu'on met des gants? Est-ce qu'on met ce genre de truc? Comment ça se passe?
Voilà, bon, les gants, c'est un peu chacun ce qu'il préfère. Les chaussures, on a quand même des chaussures spécifiques qui rejettent l'eau. Ça, c'est relativement important parce que sinon, ta godasse, au bout d'un moment, parce qu'on n'est pas forcément que axé sur la boue, mais on va passer quand même dans de l'eau, on va passer sur des terrains un peu meubles, etc. Donc, c'est important que la chaussure, elle pèse pas 10 kilos au bout d'un kilomètre. Et après, des éléments techniques sur le corps, il faut que ça soit près du corps parce que mouillé assez rapidement. Donc, il faut que ça sèche le plus rapidement possible. Il faut pas que ce soit ample parce que c'est gênant sur les obstacles. Notamment dans le ramping, par exemple, c'est quand même des barbelés parce que, bon, ça a un petit côté armé, mais les barbelés sont surtout là pour que les gens ne se mettent pas à quatre pattes et puissent, en fait, profiter de la hauteur. Donc, ils sont obligés de vraiment ramper pour ne pas se faire prendre par les barbelés. Donc, ça, c'est des petites choses aussi à savoir. Et puis après, voilà, il faut se protéger les coudes, essentiellement, et les genoux et les mains. Donc, voilà, après, chacun a ses petits détails. Il y en a qui mettent des gants, qui les sortent uniquement pour certains obstacles. Il y en a qui ont pas de gants.
Et là aussi, il y a des combines. Ouais. Comme le marathon des sables. Chacun a ses petites astuces, effectivement.
Ouais.
Merci Olivier d'être venu. Je précise que vous venez à l'occasion de la Spartan Race de Carcassonne, hein, c'est ça,
oui,
qui aura lieu au mois de mai prochain. La date, c'est le 7 mai, c'est ça, Olivier?
Voilà. Alors, le samedi, il y a deux formats de course à obstacles. Donc, la sprint, qui est un 5 km, donc vraiment accessible à tous ceux qui ont envie de se tester sur ce format-là.
Mm-hmm.
Il y a un 10 km avec 25 obstacles, qui est un petit peu plus long plus forcément.
Tôt, ouais.
Voilà. Et le dimanche, on a un format trail avec zéro obstacle sur du 10 km et 21 km. Voilà. Donc ceux qui sont intéressés soit par les obstacles, soit effectivement par le trail.
Bon.
Après, vous nous dites les gagnants et puis.
Eh ben oui, merci Olivier, puisque vous nous offrez gentiment 3 dossards. Donc voilà, si ça vous motive, vous nous précisez la course qui vous motive. Est-ce que c'est le sprint 5 km avec 20 obstacles, le 10 km avec 25 obstacles, voire le trail, hein, pourquoi pas effectivement le lendemain 10 km ou 21 km. Merci Olivier en tout cas d'avoir été avec nous. Félicitations pour ce que vous faites et puis on se dit à bientôt alors pour d'autres Spartan Race alors.
Très volontiers. Hein. Merci à tous et Claude, on espère te voir bientôt.
Il sera là. Il a dit Koh Lanta c'est terminé, mais il a pas dit la Spartan Race c'est terminé.
La Spartan, j'y reviendrai. C'est juste qu'en ce moment, je préparais des courses et c'est un peu compliqué. Mais promis, je viendrai.
Essaye d'amener Benoît et Johan avec toi.
Quand ils auront fait le marathon de ça.
Le problème, c'est que Johan, il est lancé dans une prépa olympique. On l'aura pas avant fin 2024.
Il faut attendre sa retraite.
Voilà, c'est ça. Exactement. Merci Olivier, à bientôt.
Merci Olivier. Merci à vous. Bonne journée.
Merci également Claude qui a été avec nous. On s'est régalé avec toi. On a passé une heure passionnante, évidemment. Et puis, on a une tradition pour terminer. On vous demande à chaque invité quelle musique vous écoutez en courant. Mais toi, t'écoutes rien.
J'écoute pas de musique, c'est vrai. J'aime pas entendre les battements de mon cœur dans les oreilles.
Donc, du coup, on a demandé effectivement à l'organisation du marathon des sables et on nous a dit ce qu'on vous propose c'est de mettre la musique de départ de chaque étape du marathon des sables.
Highway to Hell.
Exactement, ACDC, Highway to Hell. Ça donne. C'est bon ça quand même. Voilà, tu t'es mangé 80 km la veille, t'as froid, t'as mal dormi.
C'est reparti.
Voilà, ton sachet lyophilisé, hop là tu repars. Crac. Allez, c'est parti.
Écoute bien celle-là parce que bientôt elle va être pour toi.
C'est ça. On verra, on va monter une équipe RMC Running pour l'année 2023. Merci
Claude. Top, merci pour votre gentillesse. Bravo Johan pour tous tes exploits. Bonne continuation à toi et Benoît, merci pour ta gentillesse.
Et je t'en prie.
Merci à tous.
Merci à toi. Merci coach Yodu. On se retrouve la semaine prochaine. Évidemment. Et on vous rappelle ce conseil toutes les semaines. Quand vous courez, souriez. Ça aide à respirer. Salut à tous.